1, 2, 1, 2. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
I have a very keen sense of what things sound like because
si j'ai un sens aigu des sonorités, c'est parce que ma mère chantait du matin au soir. Elle chantait vraiment bien.
So, but there are other things.
Heures sur France Culture, vous passez par Continent Musique et aujourd'hui par la voix de Toni Morrison, l'écrivaine et prix Nobel qui parle de son rapport à la musique. Toni Morrison, pas étrangère à l'une de vos chansons de notre invité Rokia Traoré. Quelle relation vous avez avec cette écrivaine américaine ?
D'admiration, en tout cas de ma part.
De lecture d'abord, j'imagine.
Déjà de lecture pour savoir qui elle est. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle plus étroitement, ce qui m'a permis de découvrir la personne humaine derrière les romans. Et depuis, on a gardé comme ça un lien basé sur ce qu'on a en commun. Voilà, tout ce qu'on a en commun. Il n'y a quand même, finalement pas si peu que ça. Et... je suis très heureuse de pouvoir échanger avec elle et de l'avoir parmi les personnes qui me sont proches et chères.
Et donc elle figure au générique de Nesso, Chez moi, c'est le titre de votre nouvel album Rokia Traoré qui vient de paraître. Chez soi, ouais, au fond, hein, quand on a grandi comme vous entre le Mali, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la France, la Belgique. Vous êtes en France pour l'heure, en tout cas dans les studios de France Culture, avec deux de vos musiciens. On vous écoutera tout à l'heure pour deux compositions. Et puis à vos côtés, c'est Jean-Paul Roland, directeur du Festival des Eurocéennes de Belfort et à l'initiative de Générique Festival ou Anti-Festival, hein, vous nous direz, qui a lieu en ce moment et jusqu'à dimanche dans 5 villes différentes. Chacun est venu avec un disque personnel et Michael Simon de la discothèque de Radio France a choisi lui quelques disques en rapport direct ou indirect avec les Eurocéennes. Continent Musique, clic. Il en est ainsi, Rokia Traoré, un morceau sur l'échange, l'écoute et ce qui plaît chez l'autre. Rien en ce qui plaît n'est pénible. Extrait de votre album qui est chanté en français, en anglais, évidemment en bambara. Vous rappeliez dans un portrait qui est paru hier dans Libération l'origine du mot bambara. La racine, ce serait ceux qui prennent leur destin en main.
Oui, qui prennent leur destin en main, qui refusent la soumission. Et qui prennent leur destin en main et prennent leurs décisions dans la liberté. Et aujourd'hui encore, on dit à quelqu'un de qui sait ce qu'il veut, de j'allais dire têtu, mais pas vraiment ça, qui ne suit pas, ou alors pour taquiner quelqu'un comme ça, toi tu es un vrai bambara. Voilà, ça se dit encore.
On va le vérifier pendant cette émission. Il faut bien se connaître aussi quand même pour faire ce qu'on vient d'entendre dans le morceau, là, hein, le changement de rythme comme ça en pleine musique. C'est pas forcément facile quand on... Enfin, voilà, faut être bien en place. En l'occurrence, on retrouve à vos côtés des musiciens qui vous accompagnent depuis quelques temps, notamment le joueur de Ngoni, Mama Diabaté. Il y a une grande... Je me souviens vous avoir vu sur scène plusieurs fois. Il y a une grande complicité entre vous.
Puis, 18 ans de collaboration.
Ah, oui, c'est ça. Mais il était tout jeune. quand il a commencé à vos côtés?
Ah oui, mais j'ai vu Zabar pousser. En fait, il était le premier. Il était mon premier collaborateur plus jeune que moi. Il a exactement l'âge de mon frère qui me suit, donc deux ou trois ans de moins. Et du coup, au Mali, ça veut dire ce que ça veut dire, puisque quand j'ai commencé à travailler, tout le monde était toujours plus vieux. Et c'était dur de travailler avec des personnes dirigées lorsqu'il s'agissait de mes projets, alors que tout le monde était plus vieux et souvent des hommes. Donc, ça m'a fait une réputation de personne bornée et voilà. Et puis, il y a maman qui est arrivée. Je lui répétais souvent, toi, tu m'écoutes parce que je suis plus vieille que toi aussi. Et puis, ça fait 18 ans. Je ne m'imagine pas travailler avec un autre Ngoni. Et maman est libre de collaborer avec qui il veut, mais je pense qu'il y a aussi une facilité de humainement, on s'entend tellement bien. Après, artistiquement, c'est jamais la même chose. Ça, on sait maintenant l'un chez l'autre quels sont les défauts, les qualités ou juste les réalités. Et on les accepte et on est bien. On est très différents, mais très bien ensemble. Donc, je l'adore.
Et vous disiez, quand on entendait ce changement de rythme pendant la musique, je vous disais, bon, c'est pas facile à mettre en place. Vous me disiez que quand vous leur avez proposé de le faire, ils vous disaient, mais non, ça marchera pas, ça rouquin.
Tout le monde me disait que c'était bizarre, à commencer par le premier public de tous mes projets. C'est-à-dire qu'à la maison, il y a des ouvriers, il y a tout le monde qui travaille là pour la fondation, pour moi directement, et qui entendent tout, parce que j'adore répéter en plein air, et pour le malheur de Mathieu sans climatisation, parce que par 35,
Mathieu, c'est le bassiste
40 degrés à l'ombre, c'est quand même dur. Mais Stefano est venu en mai, la période la plus chaude au Mali.
Stefano, c'est le guitariste.
C'est le guitariste, c'est italien et qui est roux, donc sensible à la chaleur. Mais c'est bien. Moi, j'aime répéter en plein air. Toujours est-il que tout le monde entend. Donc dès que quelque chose, je les vois tous danser en travaillant, parce qu'on est en hauteur dans une paillote, et tout le monde danse en passant avec le maçon avec sa brouette. Ils sont contents quand ça leur plaît. Et quand quelque chose ne leur plaît pas, tout de suite après, j'ai des remarques. Mais tu sais, c'est pas très bien ça. C'est pas intéressant. Et ils m'ont tous dit, c'est indansable. C'est quoi ce truc? On ne sait pas comment danser. À part sautiller, on peut rien faire. C'est quoi cette idée? Et je leur ai dit, écoutez, moi j'adore, parce que c'est un exercice qui me sort de ce que je fais d'habitude comme composition et arrangement. Et je leur dis, par contre, je vais vous amener une partie dansante, allez. Et puis, l'idée de finalement terminer avec quelque chose de simple et binaire et arriver comme ça. Mais le changement, c'était ça. Et du coup, tous les musiciens, c'est bizarre. Je dis, non, mais ça peut se faire. Il faut qu'on bosse dessus. Et puis, finalement, tout le monde adore.
Rokia Traoré, évidemment, Bambara. Vous parliez de cette fondation, c'est la fondation Passerelle,
oui,
que vous avez créée à Bamako en 2009, qui consiste à soutenir le processus d'organisation et de développement de la musique et des arts de la scène au Mali. Concrètement, vous formez les jeunes à quoi?
Bah, ça va au-delà de formation. C'est justement, il y a pas mal de formations au Mali, et on parle de tous ces problèmes du fait en général qu'il n'existe pas de réel lieu où on peut écouter de la musique dans des bonnes conditions. Il n'y a pas un réel secteur professionnel pour la technique, son ou lumière.
Ce qui paraît mais incroyable quand on sait la vitalité de la scène musicale.
Depuis bien avant que j'arrive dedans, je suis arrivée dans la musique au Mali, j'ai entendu parler de ces problèmes, ils sont toujours là. Il y a des formations de 3 mois, 3 semaines, mais justement, tout cela n'aura jamais de sens s'il n'y a pas de travail, qu'on ne va pas au-delà des formations et qu'on ne donne pas à toutes ces personnes formées un environnement professionnel qui soit plus solide que l'informel. Et la fondation est une tentative de contribution. Voilà, parce que c'est vraiment, on me dit comme ça, parce que il n'y a pas de budget. C'est basé sur mes revenus et par exemple, la scène qu'on construit, tout ce qu'il faut faire pour la fondation, il faut que j'y aille d'abord. Et puis, voir les opportunités par rapport aux affinités avec d'autres artistes. Par exemple, Toni Morrison soutient la fondation, Peter Solars aussi. Et la plupart des soutiens viennent d'artistes que je connais directement. Et puis maintenant, on travaille aussi pour asseoir, faire des dossiers et réellement aller chercher les fonds. Parce que en Afrique, il est très facile de débloquer des fonds pour la santé ou l'éducation. Et c'est étonnant parce que la culture est le meilleur vecteur d'éducation. Et surtout dans des pays comme en Afrique où on a l'habitude d'utiliser les arts et la culture dans ce sens-là. Donc c'est étonnant qu'il ne soit pas évident de récupérer des fonds pour travailler dans la culture afin de prévenir aussi ou contribuer à prévenir pas mal de soucis pour lesquels après on débloque d'énormes fonds dont un dixième suffirait pour faire exister un secteur culturel qui soit bénéfique à des populations. Et c'est ce qu'on essaie de faire à la Fondation. Donc pas seulement former, mais avoir une scène, impliquer dans un quartier, impliquer toutes les associations de jeunes du quartier. On a fréquemment des réunions. Déjà, seulement depuis qu'on a envisagé l'ouverture en avril, j'en ai eu 3. Avec tous les jeunes du quartier, et les artistes du quartier viennent et proposent leurs projets déjà, alors qu'on n'a même pas commencé. Moi, je le vois comme ça. Pas seulement créer un lieu où on présentera des projets, mais créer un lieu que le public potentiel peut s'approprier et aussi amener ses projets, le soutien à des écoles, à des associations. Donc, c'est très complexe, très ambitieux, je dirais, mais absolument passionnant.
Je le mentionnais en préambule, Rokia Traoré, vous êtes fille de diplomate, hein, vous avez du coup connu l'enfance des enfants de diplomates, hein, vous avez grandi dans différents pays, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la France, la Belgique, ensuite je crois que maintenant vous faites des allers-retours entre le Mali et la France. En quelle langue est-ce que vous écrivez en premier lieu une chanson? C'est en bambara, j'imagine?
J'écris toujours en français, je traduis, parce que le bambara n'étant pas une langue écrite, et puis bon, depuis quelques années, peut-être je pense 20 ans, on l'enseigne à l'école à travers un alphabet qui s'est construit à partir de l'alphabet, je dirais, latin. Mais à la base, c'est une langue orale. Et faire des chansons dans les langues maliennes demande une culture, une formation à la culture traditionnelle de la musique au Mali, chose que je n'ai pas. Je suis pas musicienne traditionnelle malienne. Je n'ai malheureusement pas eu cette formation-là. Voilà. Donc, griotte ou du wassoulon, ou il y a différents billets, mais en tout cas, je ne suis d'aucun. Et il a fallu trouver mon chemin. Et puisque quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'écrivais déjà des textes depuis longtemps, et que mes premières chansons sont des textes que j'avais déjà écrits depuis longtemps, que j'ai mis en musique. À un moment, j'ai eu envie de faire aussi des chansons en bambara, et il m'était plus facile de traduire ce qui était en français, en bambara. Je pense que c'est l'année où j'ai fait une partie de lycée au Mali et j'ai commencé à apprendre, j'avais pris comme langue nationale le bambara, et donc apprendre à l'écrire à partir de cet alphabet particulier. Et donc j'ai commencé à me dire oui, j'aimerais faire des chansons en bambara parce que je parle couramment, c'est juste que je ne sais pas imaginer une chanson. Je ne connais pas le répertoire classique qui est là, que les artistes prennent et changent. Finalement, c'est ça, en fait. Et voilà, il fallait que je trouve mon moyen. Et c'était ça, traduire en bambara. Et je continue à travailler comme ça, même si maintenant, il m'est plus facile, des chansons viennent tout de suite en bambara. Mais à un moment, pour développer, quand il s'agit d'écrire, j'ai besoin de le faire en français d'abord et ensuite traduire.
Je vais vous faire écouter la voix d'Umberto Eco, qui nous a quittés récemment, à propos justement de la langue et de la traduction.
Je crois que je rêve en italien, sauf si je rêve de me trouver dans un pays étranger, parce que, au contraire, on peut penser dans des langues différentes. Lorsque je suis ici, je pense en français. S'il s'agit d'une pensée consciente, on la traduit immédiatement dans deux mots, et donc on est amené à employer les mots du milieu. Le rêve, c'est une question d'image. Je ne pense pas qu'on rêve dans une langue. On voit des images, des gens qui parlent, qui peuvent même parler russe. Je sais pas. Les enfants apprennent la langue de la rue, et c'est ça qui a influence sur eux. Même s'ils ont un instituteur qui leur donne des leçons très académiques. C'est comme dans le bilinguisme. Mes enfants sont en principe bilingues, parce que ma femme est étrangère, est allemande, mais évidemment, ils pensent en italien parce que la langue ne dépend pas ni de la langue de la mère, ni de la langue du père, mais de la langue de la rue ou du concierge. C'est ça qui devient la véritable langue d'un enfant. Ce n'est pas seulement une question de langage, c'est une question de culture. Il y a des choses qu'on peut traduire littéralement d'une langue à l'autre en respectant la grammaire des deux langues, mais qui n'ont pas de sens parce qu'ils tombent dans une culture différente. C'est qu'on acquiert à chaque traduction bien réussie, une âme davantage. À travers la traduction, ce sont pas deux langues, mais deux façons de penser, deux façons de voir le monde, deux âmes qui se mettent en contact. Et donc, lire le même livre dans une autre langue, c'est un enrichissement d'âme.
Umberto Eco en 1996 pour Avoir Nu sur France Culture, c'était au micro de Francesca Piolo. Alors visiblement, vous devez rêver, non pas dans une langue, hein, puisqu'il dit Umberto Eco qu'on rêve plutôt en images qu'en des langues, mais puisqu'il parle de la traduction, le livret, les paroles de vos chansons, Rocca Traoré, ici, elles sont toujours traduites en anglais, et forcément, il y a quelque chose qui s'opère qu'on ne peut pas comprendre avec la traduction.
Pas du tout. Enfin, je crois que non. C'est pour ça que ça prend du temps, que je tiens à traduire moi-même du bambara au français, parce que comme il disait, c'est vrai, parce que il ne s'agit pas plus de langue à ce moment-là. Il s'agit de faire comprendre à des personnes d'une culture comment on pense quelque chose de précis, de donné, dans une autre culture. Et ce ne sont pas forcément les mêmes mots, ça ne sont pas forcément les mêmes tournures, mais il s'agit de faire comprendre même idée.
Le sens.
Voilà, le sens. Du coup, je traduis de bambara en français, et puis je fais traduire de français en anglais, et puis je relis tout, et fais changer des choses, parce que si l'anglais est une langue dans laquelle je ne me sens pas de traduire tout de suite, parce que je n'ai pas forcément tout le vocabulaire et toute la culture, quand je lis ce qui a été écrit, je comprends tout de suite que c'est bon ou pas. Et du coup, j'ai besoin de travailler avec des traducteurs. Souvent, ce sont des personnes que je connais d'avance, avec lesquelles je peux discuter sur le sens d'un mot que je pense pas bon, choisir autre chose, etc.
Alors, Mathieu Nguessan et Stéphano Pilia se sont installés derrière nous. On entend les amplis qui commencent à ronfler. Il n'y a pas de besoin de traduction pour Amour qu'on va entendre, hein, puisque celui-là, vous le chantez en français. Il est le morceau que vous allez chanter après. Il parle de quoi ?
Il parle de légèreté nécessaire dans la vie, voilà, pas essayer de ne pas porter des jugements par rapport à tout et ne pas forcément vouloir changer les gens, mais prendre chez eux ce qu'on peut pour faire ce qu'on a à faire avec eux. Et si tout le monde fonctionne comme ça, ça, le changement peut être volontaire chez l'autre, d'ailleurs, du moment qu'il n'est pas, il n'a pas l'impression d'être forcé. Et j'aime bien la vie comme ça. Donc il y parle de ça, de légèreté, de juste voir le bon côté des choses, et il veut dire, toi alors. Voilà, c'est un peu, de manière légère, un coup de gueule, laisse-moi tranquille, moi j'ai envie d'être bien, même avec toi qui es chiant. Voilà.
On va être bien avec vous alors, Rocca Traoré. Je vous laisse retrouver la guitare en étant direct sur France Culture. C'est Mathieu Nguessan qui est à la basse et Stéphano Pilia à la guitare dans le studio 108. Vous me faites signe quand vous êtes prêt, le temps de chausser le casque et de retrouver la guitare. C'est une lag, comme ça on fait un peu de pub.
Amor, amor, amor.
Rokia Traoré en direct sur France Culture, Rokia Traoré qui sera en concert demain soir avec ces deux musiciens-là et puis d'autres demain soir. Donc ce sera au 104 à Paris, à Amiens le 5 mars, puis viendront Arles, Toulouse, l'abbaye de Fontevraud et puis jusqu'au 25 juin au cloître de Moissac. L'album Nesso, lui, est édité sous le label Nonesuch Records. Je donnais des dernières dates, enfin les prochaines dates de concert. Il y aura notamment l'abbaye de Fontevraud, le cloître de Moissac, c'est des lieux qui forcément, on va parler en plus avec Jean-Paul Roland qui est à nos côtés ici, de justement du fait de donner des concerts dans des lieux un peu inhabituels ou inattendus. Il y a des lieux de concerts comme ça qui auront marqué votre carrière. Vous avez des souvenirs forts d'endroits qui ont changé, voilà, la façon de jouer ce jour-là.
Eh bien, déjà par rapport au 104 hier, qui était hier, où j'avais travaillé avec un projet de ma fondation, justement, j'avais gardé un beau souvenir, alors pas de la salle, parce que c'est une salle comme une autre, mais de l'environnement général, qui m'a donné envie de revenir là et faire le premier spectacle de cet album, avec autre chose prévu le 28 octobre prochain au Trianon. Et puis il y a, oui, l'abbaye de Fontevraud. Quand j'ai eu la demande et que j'ai vu un peu là où c'était, j'avais absolument envie de venir. Et c'est vrai qu'ils sont pointilleux sur tout ce qui est niveau de son, etc., parce que c'est un endroit à préserver et le son abîme quand il s'agit de matériaux fragiles, voilà. Et tout ça, et puis je suis absolument partante pour trouver des solutions pour pouvoir faire que ce genre de lieu continue à vivre et soit accessible à un grand public. Et oui, il y a des endroits comme ça particuliers. Après, les festivals sont d'autres contextes selon le festival et le moment où ça se passe, que ce soit en hiver ou en été. C'est toujours agréable. Des fois, c'est dans les champs, des fois, c'est en bord de mer, des fois, c'est dans des lieux improbables, dans des anciennes usines ou des choses comme ça. Mais c'est intéressant pour un artiste de passer d'un genre de scène à un autre, en tout cas dans ces genres de musique-là.
Vous entendez, Jean-Paul Roland, la première remarque de Rokia Traoré, c'était la différence, c'est plutôt l'accueil en fait. Hein, c'est-à-dire l'ambiance, j'imagine, l'état d'esprit dans lequel tout le monde travaille dans un festival. J'imagine que c'est la première chose qui vous soucie.
Oui, je crois que c'est pour ça qu'on se lève le matin, mais pour faire le lien avec Rokia Traoré... Effectivement, je me rappelle, je lui dis tout à l'heure, je me rappelle d'avoir invité, au moment de son premier album, dans un ancien cinéma, justement. C'était un club à côté de Montbéliard, mais enfin, bon, c'est il y a très longtemps.
Oui, absolument. Voilà. Je me rappelle on l'a appelé Montbéliard, dans le roadbook et tout, mais je me rappelle de cette date-là.
Voilà. Et c'était un endroit qui était incroyable, quoi, parce qu'un vieux cinéma des années 20 où elle avait joué, je l'avais programmé là, donc c'était un grand souvenir, déjà, d'essayer de tester, justement, la musique populaire dans des endroits entre guillemets du quotidien ou peut-être même un peu extraordinaire.
J'ai lu Rokia Traoré à propos de ce disque-ci que vous aviez presque à un moment envisagé d'abandonner la carrière de chanteuse. Vraiment ?
Abandonner la manière de mener, enfin repenser la manière de mener une carrière. Abandonner s'est avéré être pas une option très très vite, parce que c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai enfin réalisé que j'étais une artiste, parce que je suis arrivée dans la musique d'une manière évidemment j'ai tout fait pour développer après, mais c'était un rêve tellement énorme qu'il me semblait inaccessible. Donc moi, j'ai rien fait pour avoir réellement une carrière en tant que musicienne, parce que je pensais pas que c'était possible. Et puis de fil en aiguille, je suis quand même arrivée là.
Ah, c'était un grand. Ben, c'est avec cours de guitare avec Ali Farkatouré. Enfin, quand même.
Ben, c'est avec grand plaisir. En fait, tout ça, je le faisais parce que c'était pour moi une occasion de faire quelque chose. J'ai toujours été très active et j'ai fait différentes choses comme ça. Aussi partie du premier groupe de rap du Mali. C'était chouette. C'était au lycée. Oh, ben, vous voulez une chanson? Je suis là, mais sans, pour moi, je passais mon bac et j'allais faire mes études, il fallait être sérieux, on ne devenait pas chanteuse qui le voulait. Et puis finalement, je suis arrivée là. Et voilà, et je ne me suis jamais vue réellement comme une artiste pour ces raisons aussi, avant ces questionnements-là, où je me suis dit, oui, mais on ne change pas comme ça. C'est suite à une remarque de mon fils de 6 ans, Tu es chanteuse, comment tu veux chanter, changer? Je dis oui, il dit vrai, c'est vrai que je peux faire, il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais il ne s'agit plus que d'une profession, c'est aussi une manière d'être, on ne change pas ça. Et il fallait que je m'explique comment continuer avec les changements dans le milieu du disque, avec les problèmes au Mali, la fondation que je venais de créer et ma vie de mère. Il fallait trouver un équilibre pour continuer. Bon, donc j'ai dû repenser ma carrière, ou en tout cas me positionner, avoir une idée claire de là où je voulais aller et comment.
Alors je voudrais vous faire entendre la voix d'une chanteuse qui parle d'un spectacle auquel elle tenait et qui n'a pas marché, c'était il y a longtemps. C'est Colette Renard, elle parle de Jeanne Vérité.
Là là, les moutons font la laine, chantons les belles plaines, les plaines de chez nous.
Mais c'était beau à faire, c'était intéressant à faire, c'était superbe. Je regrette pas de l'avoir fait, parce que j'ai encore appris des tas de choses. Et puis j'ai appris l'humilité, là. Je n'avais eu que des marches qui montaient. Il faut se casser la figure, hein. C'est nécessaire. parce que peut-être que quelque part, c'est l'apoplexie. Là, boum.
Mais vous en êtes mieux sortis que lui, quand même.
Oh, ça en est bien sorti tous les deux.
Vous n'êtes pas sortis ensemble.
Mais on n'est pas sortis ensemble. Vous savez, dans un cirque, il y a plusieurs sorties. Il y a plusieurs issues.
C'est vrai qu'il est parti se cacher ?
Oui.
C'est terrible, ça. C'est quand même le désarroi d'un mec.
Oui. Là-dessus, je veux pas revenir parce que je n'ai jamais épluché. Je n'épluche pas les choses. Je passe. Hein. On passe tous. Mais je passe avec... un mur, là, faut le franchir, on le franchit, on passe, il y a un trottoir, on monte, on passe de l'autre côté, puis voilà.
C'est aussi simple
comme ça. Ah oui. Oui. Avec le caractère que j'ai, c'est comme ça.
C'est une chance, quand même.
C'est monstrueux. Mais j'avoue, c'est monstrueux. Mais c'est comme ça.
Colette Renard, dans Le Temps d'une chanson, c'était en 96 au micro de France Inter, elle évoque donc cet échec qui a aussi précipité en fait la rupture de son couple avec Raymond Legrand, ça c'était bien des années avant, et elle explique aussi quand même, c'est intéressant ce qu'elle dit, il faut se casser la figure en fait pour un artiste.
Absolument, et je pense que on se casse fréquemment la figure, parce que même quand tout le monde a l'impression que ça a réussi, on voit toujours ce qu'on aimerait qui marche, en tout cas artistiquement, qui fonctionne et qui n'a pas fonctionné. Et des fois, on croit très fortement à quelque chose artistiquement et ça ne prend pas. Et je pense que là où tout le monde vous encense et vous porte au ciel, vous apprenez l'humilité déjà, parce que par rapport à ce que vous vouliez vous-même et où vous n'êtes pas arrivé artistiquement. Et enfin, en ce qui me concerne, c'est aussi un genre de musique précis que j'ai voulu. J'ai pas voulu faire de pop, je pouvais, mais être une star n'a jamais été mon but.
Mais vous faites pas non plus de la musique malienne, vraiment.
Non, ça n'a jamais été mon but, j'aurais pas pu, parce que je n'ai pas cette formation. Je voulais faire de la musique, tout court, et avoir une carrière, et monter des projets artistiquement, en musique, aussi ce que je fais avec Peter Sellers, et c'est comme ça que je connais Toni Morrison, où je ne fais pas que de la musique. Et j'ai tout ça, mais pourtant, dans tout ce cheminement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ma carrière que j'ai obtenu en claquant des doigts. J'ai toujours travaillé comme une malade. Et je travaille toujours comme c'est pas possible. Donc moi, je n'en suis pas... Et c'est ce qui m'a toujours plu dès le début, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose, et bien, il fallait y aller. Et je suis comme ça. Et donc j'ai appris, évidemment, l'humilité est une chose essentielle. Et le changement de tout n'est pas vraiment quelque chose qui est monté, qui s'est cassé la figure. C'est pas vraiment ça, c'est un ensemble de choses. La situation au Mali, une carrière, oui, qui s'est construite. J'ai commencé très jeune, j'avais 18 ans. Et à un moment donné, on réfléchit à ce qu'on veut. Et évidemment, je suis restée dans ma trajectoire, mais j'ai juste senti quelques petites choses où j'étais pas vraiment dans ce que je voulais et qu'il fallait changer. Notamment, j'avais envie de retourner vivre au Mali. Voilà. Et j'avais ce projet qui était là depuis longtemps, que je construisais sans savoir comment j'allais faire. Les terrains étaient là, les murs se construisaient, mais comment retourner vivre là-bas?
Et justement, il est question de ça un petit peu, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je devine dans le morceau Kolokani, puisque dans cet album, il est question de Kolokani, c'est ceux qui restent à la source. Donc, en fait, ceux que vous avez connus toute jeune, voilà, vos proches, des amis, et puis ensuite.
Très tard, au contraire.
Ah.
Et c'est parce que.
Comment vous êtes perçue au Mali, en fait, comme une chanteuse pop occidentale?
Pas du tout. C'est-à-dire que cette image qu'on a de moi par rapport à ma carrière au Mali est vraiment drôle. Même moi, j'y ai cru jusqu'au moment où je suis venue là, habiter là. J'ai une relation d'admiration et de respect avec mon public malien. C'est comme ce que je chante concernant Kolokani. On a peu de choses en commun, mais le peu qu'on a en commun, qui est notre nationalité malienne, nos racines, nous rend unis. Moi, à la fois, j'admire ceux qui sont restés. Parce que, comme je le dis dans la chanson, pour moi, ils sont mes repères. Et eux m'admirent parce que je suis partie faire connaître quelque chose de positif du Mali. Parce qu'on est bien tous conscients que dès qu'on parle d'Afrique, s'il y a une chose dont tout Africain est conscient, c'est que dès qu'on parle d'Afrique à l'étranger, c'est du négatif. Et ça nous fait tous, à tous du bien d'entendre parler du continent, de nos pays, à travers quelque chose de positif et léger. Et donc, on a ce relationnel Sahel et au Mali, pour eux, je représente quelque chose. Je représente le Mali quand je suis à l'étranger. Ils ont un respect pour moi qui me fait rire parce que je ne me sens pas aussi importante. Et on me dit, quand je sors comme ça en jean, t-shirt pour gérer quelque chose, je me fais souvent engueuler. Mais tu dois pas, soit tu es quand même respectable. Notre ambassadrice, et puis ça me fait toujours rire. Et en même temps, je vais au marché, je suis proche. Et c'est ça que j'aime là-bas. Donc, il y a vraiment cette image d'ici où ce que j'ai fait, je fais n'est pas malien, donc pas un public malien. Si, il est là. C'est différent. C'est une musique malienne contemporaine qui n'est pas la musique traditionnelle et qui n'est pas ce que les gens écoutent tous les jours, mais qui petit à petit s'est fait son chemin, comme ici. Au début, j'avais pas un réel public.
Oui, et puis j'avais même lu une interview où vous disiez que vous aviez presque plus l'accent que certaines de vos sœurs, parce que justement...
Des cousines, ouais. C'est-à-dire qui ont été nées et ont grandi à Bamako et ont fait des allers-retours fréquents au village, n'ont au moins l'accent que nous qui avons grandi entre Bamako et d'autres villes à l'étranger, qui n'avons eu que les parents comme interlocuteurs en Bambara. Donc les parents ont cet accent-là. En tout cas, dès qu'on est en famille. En fait, c'est bizarre. C'est que dès qu'on est en famille, on a l'accent de Kolokani. Parce qu'en plus, entre les villages, l'accent diffère comme ici. Et puis, je l'ai en Bambara quand je chante, ce qui fait que tout Malien ne comprend pas mes chansons. Il faut vraiment tendre l'oreille ou être de la région de Bélédougou pour comprendre ce Bambara-là. Mais après, je m'amuse aussi à chanter plus en mandingue comme sur Kenya, parce que je sais très bien comment perdre l'accent et apprendre autre chose. Mais je suis fière de cet accent dont certains ont honte des fois, parce que c'est l'accent du... C'est pareil partout. Hein. Des fois, on a envie d'avoir l'accent parisien plutôt que du sud, etc. Mali, c'est pareil. Donc certains en ont honte, tant que d'autres en sont fiers. Et moi, je suis fière de prendre mon fort accent du Bélédougou et parler avec les gens qui comprennent pas tout ce que je dis du coup.
Vous avez choisi, je demande toujours aux invités de choisir un disque, chacun le sien. Vous avez demandé le dernier album de Devendra Bonnart. Now she's leaving. Congregation. Left the abbeys. Suffocation. She's been dreaming. Relocation. Le dernier album de Devendra Bonnart, c'était, je crois, en 2013-2014, hein, Mala. Vous l'avez choisi, parce que j'imagine bien, parce que vous avez travaillé avec lui sur ce disque, Devendra Bonnart.
Mais j'ai travaillé avec lui parce que j'ai écouté son album. Ah. c'est dans le temps. Je l'ai découvert avec l'album. Nous sommes sur le même label, donc voilà. Quand je passe là pour la promo, on me donne tout ce qui est sorti. Et puis j'écoute et par hasard comme ça, je mets et je réalise que j'ai envie de le rencontrer. C'est un univers. C'est une belle musique, on sent penser et rien n'est là par hasard, ça s'entend. Et voilà, c'est le genre de travail très personnel et qui est preuve d'un talent artistique présent aussi, qui m'intéresse chez des artistes qui ont une personnalité. Et j'avais envie de le rencontrer et puis par la suite je l'ai invité sur scène, sur cet album.
Eh bien, puisqu'on va continuer dans la sélection de disques, cette fois-ci du côté du patrimoine, avec la discothèque de Radio France, et c'est Michael Simon qui est aujourd'hui avec nous.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Talk to you guys. I have to talk to somebody. Dad, you better give me an answer this time. Go ahead. A direct answer. I'm in trouble. You know that big high bluff near Millertown?
Oh, yes, yes. There was a bad accident. They showed the pictures on television, Jim.
I was in it.
How? How
How can you do this?
Mais il y a eu un accident, ça c'est dans La fureur de vivre de Nicolas Ray. Pourquoi James Dean aujourd'hui, Michael Simon?
C'était pour faire un petit clin d'œil à l'affiche de l'édition 2016 des Eurockéennes qui met en scène James Dean justement au volant d'une voiture.
En effet.
Donc, et pour ça, donc, j'ai ramené effectivement ce magnifique vinyle.
Ah oui, il y a deux disques, alors très très beaux. Celui-ci, ça c'est quelque chose qu'on peut trouver dans le commerce,
c'est quelque chose. Enfin, c'est un disque qui est sorti en 75 et qui compile les trois grands films de James Dean, donc La fureur de vivre, L'Est d'Éden et Géant, avec à chaque fois, comme on vient de l'entendre, un extrait de la bande originale et un extrait du film lui-même, un dialogue. Et d'ailleurs, au dos de la pochette de ce disque, il y a des citations des trois différents réalisateurs. Si vous voulez lire. Et il y en a une que je trouvais particulièrement intéressante, justement de Nicolas Ray, qui parle de James Dean comme d'un instrument et dit « Il était réellement en accord avec son corps et comprenait comment l'utiliser comme un instrument accordé avec soin. » Il fait le lien entre James Dean et la musique.
Et j'imagine que l'ancienne jurée, puisque vous étiez jurée à Cannes l'année dernière, Rokia Traoré, vous êtes sensible à cette notion de l'accord chez les comédiens, forcément.
Mais c'est ce que je disais à l'époque quand on m'a demandé, vous êtes la seule musicienne, je dis non, finalement ce sont des métiers qui ont un point commun. Il s'agit de la manière dont il faut gérer son corps ou un élément de son corps au service d'un art. Et oui, ça rejoint ça, je le vois comme ça.
Jean-Paul Roland, que vient faire James Dean? On comprend pour la photogénie et tout, mais alors pourquoi James Dean pour cette année, pour cette nouvelle édition des Eurockéennes qui aura lieu en juillet cet été?
Disons qu'on est un festival un peu qui est pas tout jeune, et donc on joue toujours un peu le côté un peu vintage, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il succède à Mohamed Ali il y a quelques années. Et puis pour faire le lien avec le cinéma, en fait, notre affichiste Gilles Frappier, aussi l'affichiste de Cannes, il avait déjà travaillé pour nous. Et puis donc effectivement, quand il propose, il donne sur un univers. Et puis il y a un petit univers rock'n'roll, quoi. James Dean, on a tous eu, enfin je sais pas à quel âge, mais enfin moi j'avais quelques posters dans sa chambre, quoi. C'est les beaux gosses, quoi.
Vous avez même les mêmes lunettes que lui, en l'occurrence. Et puis vous avez apporté un autre vinyle James Dean. On aura pas le temps d'écouter celui-là, mais ça c'est vraiment une rareté, James Dean, pour les fans.
Je sais pas si vous aviez ça dans votre chambre, mais je pense que tout bon fan de James Dean qui se respecte doit avoir ce vinyle. C'est un vinyle, c'est pirate, c'est un bootleg. Donc ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce disque, même pas la date, qui est sorti chez un label obscur qui s'appelle Movie God Records. Et ça, il semble d'ailleurs que ce soit la seule sortie de ce label, ce qui n'est pas étonnant pour un disque pirate. Et dans ce disque, il est plus question des trois grands films de James Dean, mais de deux téléfilms. Et en fait, c'est la bande-son complète des téléfilms qu'on retrouve sur chaque face. Des téléfilms extraits de séries d'anthologie des années 50. Donc une, c'était Shields Play House of Stars. Et l'autre, donc un épisode avec Natalie Wood, déjà. En 55, qui était extrait de General Electric Theater, présenté par Ronald Reagan.
D'accord, donc ça c'est pour les fanatiques à trouver dans les discothèques de Radio France. Et puis autre disque, mais là cette fois-ci qui a à voir avec une édition importante dans l'histoire des Eurockéennes, c'est l'édition de 92, où il y avait, alors là l'affiche était incroyable, hein, il y avait Bob Dylan, James Brown, Lou Reed, Morrissey et aussi Rufus Thomas.
Girl, come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. Now, y'all heard of the popcorn? Y'all heard of the dog? You heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up and your right arm too.
Rufus Thomas, Funky Chicken, très beau disque, tout en couleur, qui est édité sous le label. Allez, je vais faire le son du label.
Stax.
Voilà.
Il était sorti en 70. Donc on est bien après ses premiers succès, parce qu'il avait commencé avec un premier 45 tours qui s'appelait Bearcat. Donc j'ai ramené la réédition ici de Sun Records.
Chez Sun Records, le label d'Elvis entre autres.
Et dans le morceau Bearcat, il parodiait la chanson Hound Dog.
Alors il y a une animalité manifeste dans la musique de Rufus Thomas.
Et oui, là on l'a entendu faire le chicken, et dans Bearcat on l'entend miauler pour se moquer encore.
Je vous reconnais bien là, Michael Simon, dans vos choix. Merci pour cette sélection. On n'a pas le temps, malheureusement, de passer le troisième. Colette Mani, vous nous en direz peut-être quelques mots, Jean-Paul Roland, mais un mot sur cette édition de 92 des Eurocoyennes. Vous étiez. C'est la première fois que vous allez au festival, en fait, en 92.
Oui, enfin, j'ai tout de suite travaillé aux Eurocoyennes.
Ah oui, la première fois que même je pas dans le public, c'est tout de suite pour travailler.
La fois que je suis allé dans un festival, d'ailleurs, c'est aux Eurocoyennes et c'est pour travailler.
Ah oui, voilà. D'accord.
Mais juste pour sur Rufus Thomas, parce qu'il y a une petite anecdote cette année-là. En fait, il jouait avec James Brown, et puis malheureusement l'avion de Rufus Thomas avait du retard, et donc son concert était malheureusement annulé, quoi, parce que les concerts se succédaient, et donc il a fallu aller demander finalement à James Brown s'il acceptait dans son show que Rufus Thomas puisse chanter une chanson, d'ailleurs celle que vous avez passée. Ça n'a pas été aussi facile que je le dis, et donc il y a eu une petite apparition, voilà, de Rufus Thomas dans le concert de James Brown. Mais c'est un type assez formidable parce qu'il était déjà assez âgé, mais
il avait 75 ans, je crois.
Voilà, mais il était assez vivace, notamment auprès des stagiaires et du personnel féminin.
Et vous avez réussi en plus à les faire monter tous les deux sur scène.
Surmonter tous les deux sur scène, oui.
Plutôt pas mal. Cette édition incroyable de 92, il y en a eu d'autres, des éditions incroyables. Il y a eu 96 aussi, où il y avait, je crois, la même année, Daft Punk.
Red Hot Chili Peppers, Nick Cave.
Ouais.
Ministry, David Bowie aussi.
C'était une très belle édition. Mais cette édition de 92, alors que le festival était tout jeune, faire venir Bob Dylan, James Brown, Lou Reed, ça a un peu plombé en fait le festival aussi, parce qu'il n'y a peut-être pas eu le succès qu'il fallait. Quand on, j'imagine, voilà, que ça a un coût de faire venir de tels artistes, ça a été aussi un poids pour le festival.
Oui, enfin, c'était une folie des grandeurs difficilement maîtrisable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une année de succès, l'année 91, on rajoutait un jour, et finalement ce jour coûtait plus qu'il ne rapportait, je veux dire. Donc c'était toujours un peu délicat, mais je crois que c'était aussi la folie de ces festivals au début, qui naissaient comme ça dans un champ et qui grandissaient au fur et à mesure que les gens venaient le voir, l'attrait, et puis j'allais dire aussi un peu la folie de tous ceux qui étaient aux commandes, mais ça me semble assez naturel parce que c'est quand même des choses qui sont assez enflées quand même, ces festivals.
Alors on va parler forcément des Eurocayennes, mais aussi de générique avec vous. Un extrait des Threesome Sisters à voir notamment dans le festival générique, puisque je crois qu'ils jouent ce soir
voilà.
À Besançon.
Oui, oui.
Alors, générique auquel vous êtes associé, Jean-Paul Roland, directeur des Eurocayennes de Belfort. Bon, ça, les Eurocayennes, tout le monde le sait, c'est début juillet, on y reviendra. Je dis festival, mais en fait, générique, c'est presque une sorte d'anti-festival, puisqu'il n'y a pas d'unité de lieu ni de centre, c'est éparpillé dans 5 villes différentes, hein. Il n'y a pas que Belfort. Il y a Dijon, Besançon, Mulhouse, Montbéliard, et surtout dans des lieux souvent différents. Il y a des vraies salles de concert, mais bah, par exemple, il y a le garage Autonet à Belfort, le musée d'art sacré à Dijon. Qu'est-ce que ça produit, ce décalage des lieux? C'était la volonté de départ, c'était de faire sortir un petit peu les concerts en dehors des salles habituelles.
Oui, enfin, disons que c'était, il y avait plusieurs buts. Le premier, effectivement, c'était de dire nous qui construisons un festival assez gros, j'allais dire avec une tradition bien ancrée, on demande aux gens de quitter leur chez-soi pour aller dans une plaine. Là, on dit plutôt aux gens restez chez vous, enfin restez dans vos lieux de quotidienneté et on vous amène la musique populaire. Parce qu'on se rend compte, malgré tout, je crache pas dans la soupe, mais qu'effectivement, si la musique populaire est assez vivante, vivace même en France, on a quand même tendance à la cantonner, soit dans des clubs plutôt en périphérie, soit dans des festivals plutôt éloignés des villes. Et que le fait de faire de la musique dans la ville, ça devient finalement un acte un peu militant. Il n'y a qu'à voir un peu les plaintes souvent que les gens qui font de la musique dans les bars, par exemple, peuvent avoir avec le voisinage. Donc voilà. Donc c'était une manière, alors bien entendu, sans trop embêter les voisins, mais peut-être, et puis aussi de faire redécouvrir le cœur des villes, faire des concerts dans des planétariums, de faire des concerts dans des chapelles. Et puis surtout, ça permet ceci de croiser les publics et que effectivement, il n'y ait pas que les fans de pop rock qui aillent voir les groupes qui leur sont destinés, mais peut-être d'autres gens qui, par justement l'attrait d'aller, je sais pas, à la chapelle de Ronchamp, vont découvrir un groupe.
Comment se fait la programmation? Parce que en plus, il n'y a pas la même programmation dans chaque ville. Hein. Je crois qu'à part, il y a quelques artistes comme Abdelmalik qui doivent faire deux ou trois dates dans différentes villes. Mais sinon, vous êtes six à y travailler. Enfin, je veux dire six structures. Il y a vous, les Eurocaines de Belfort, la Vapeur à Dijon, le Moloko d'Incourt, le Noumatrouf à Mulhouse. Vous allez même du côté de l'Alsace, la Rodia à Besançon. Bref, et qui a le dernier mot? Qui fait quoi dans cette programmation?
Alors, sans être dictatorial, mais disons que comme
avec un léger sourire.
Non, mais comme nous avions ici et nous Eurokiennes le festival, il était entendu que pour éviter justement le piège d'une programmation dispersée, multiple, il fallait qu'elle soit centralisée. Et donc ce sont effectivement les programmateurs des Eurokiennes qui s'occupent, on va dire, de la direction artistique. Bien entendu, c'est en accord avec les villes, puisque chaque ville va trouver elle-même sa médiathèque, l'appartement qui va recevoir tel concert ou le concert à la piscine. C'est elle qui va négocier, j'allais dire, avec les endroits. Et puis c'est bien entendu les Eurokiennes, les programmateurs qui vont programmer eux-mêmes dans ces endroits.
Habits, les mauvaises habitudes des Last Shadow Puppets qui seront à l'affiche donc des prochaines Eurokiennes de Belfort. Ça, ce sera en juillet. On parlait juste avant du territoire avec Générique et puis le fait que vous alliez jusqu'en Alsace même avec Générique. Mais de toute façon, la question, elle se pose aussi pour les Eurokiennes. Est-ce que avec la réforme territoriale qui est effective depuis décembre, janvier, là voilà, ça a un impact sur votre fonctionnement, sur votre relation avec les autorités publiques qui vous donnent des subventions? Est-ce que vous changez d'interlocuteur, Jean-Paul Roland?
Disons, on va peut-être changer d'interlocuteur au gré, j'allais dire, des résultats électoraux. Il se trouve qu'en fait, ce festival a été inventé par le conseil départemental. Donc effectivement, c'est un objet, on va dire, de communication, une fête de la jeunesse, et puis en même temps, essayer de dispenser des valeurs qui étaient effectivement des valeurs de partage, de citoyenneté pour un petit territoire. Ce qui se pose en ce moment, alors nous, on a fait un virage économique il y a quelques années, donc on est plus tributaire, enfin disons que les subventions représentent 10% de notre budget. Donc on va dire, nous, on est condamnés un peu à l'affluence d'avoir beaucoup de monde, puisque c'est le festivalier qui paye le festival. Néanmoins, on peut dire qu'il y a quand même un consensus général, au-delà des clivages politiques, sur le fait de s'accorder sur le soutien à ce festival. Mais bien entendu, ce qui nous pose plus problème actuellement, c'est de regarder un peu l'écosystème culturel de notre territoire, que ce soit les centres chorégraphiques, le théâtre, etc., et de voir qu'effectivement, en ce moment, la question se repose sur le fait de pouvoir perdurer à faire ce qu'on appelle les actions culturelles. Générique, c'est on va dire un side project des Eurokéennes. Donc effectivement, quand les subventions baisseront, peut-être qu'on ne se consacrera plus seulement qu'aux Eurokéennes. Donc c'est ça qui nous inquiète un peu.
Alors les Eurokéennes, c'est une situation singulière, vous le laissiez entendre, mais pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est pas dans la ville de Belfort, hein, c'est à 7 kilomètres à côté, c'est dans un site naturel. Je sais pas si vous y êtes allé, je crois pas, hein, Rocky Traoré.
Non, mais ça me semble être comme Glastonbury que j'ai fait deux fois. C'est le même genre d'état d'esprit où Roskilde, c'est plus en ville. Il y en a un autre, c'est Szigetz aussi, qui est un peu comme ça.
Voilà. Ouais. Donc là, c'est sur une presqu'île, la presqu'île du Malsaussi. C'est une zone protégée, donc entre deux plans d'eau. C'est un très bel endroit. Ça revient souvent, développer des valeurs citoyennes. Alors ça, bien sûr, tout le monde est d'accord avec ça, mais comment est-ce qu'un festival de rock développe des valeurs citoyennes, Jean-Paul Roland?
Par exemple, quand vous avez, par exemple, un dispositif pour accueillir des personnes handicapées, par exemple, et que des gens qui viennent au festival, qui ont des personnes de 30 ans, 35 ans, qui n'ont jamais vu un concert, par exemple, à cause de leur situation de handicap, et viennent dans ce festival-là, et que des gens qui sont volontaires les aident, soit à leur raconter les concerts parce qu'ils sont aveugles, ou alors les amener dans des endroits pour qu'ils voient et tout ça, je pense que là, on change le regard, finalement, sur le handicap, et peut-être que c'est ça, je pense, la citoyenneté. Le fait aussi, dans une société comme on est, qui est quand même un peu divisée, de voir effectivement des personnes d'un certain âge, pour pas dire seniors, vibrer avec les mêmes personnes, avec des jeunes personnes. Donc voilà, je pense que c'est tout ce mélange-là qui nous fait dire qu'on développe des valeurs citoyennes.
Oui, mais aussi, par exemple, à cause de la restriction budgétaire, le fait que ce soit finalement le public qui finance lui-même son festival pour le plaisir de voir des choses qui viennent d'ailleurs. La pop, oui, pop rock, oui, mais pas seulement de France, est une valeur citoyenne aussi.
Je pense aussi que cette année, on a un projet, on est en train de faire une création autour de la musique malienne, une musique spécifique, le Balani Show, quoi, qui est encore une musique qui n'est pas trop diffusée ici. Et je pense que c'est aussi un geste un peu citoyen, c'est de montrer quelle culture il y a un peu plus loin que nos frontières et des cultures qui ne sont pas des cultures forcément de misérabilisme.
Mmh. Alors vous avez choisi, Jean-Paul Roland, vous, Bo Diddley, un disque. Ah on l'écoute.
Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see?
Pas juger un livre par sa couverture, chante Bo Diddley, un album de 62 que vous avez bien fait de choisir puisqu'on l'avait pas. Du coup, on l'a acquis à la discothèque. Pourquoi Bo Diddley? Bo Diddley, originator du rock.
En fait, j'ai vécu toute mon enfance en Afrique et j'ai découvert le rock en revenant adolescent en France. Et pour moi, ça a été le chaînon manquant. C'est ce qui m'a amené finalement vers le rock. Et ce rythme-là, ce Bo Diddley beat, ce jungle beat, avec toute la créolité à l'intérieur. Et je crois qu'il fait vraiment le passage entre les rives du Mississippi, celles du Niger. Et pour moi, ça m'ouvrait d'un seul coup un univers incroyable.
Vous étiez du côté du Mali? Non, vous
êtes de la Côte d'Ivoire.
De la Côte d'Ivoire?
Oui.
Vous êtes resté combien de temps?
Je suis resté jusqu'à l'âge de 12 ans.
Et il faut faire la désannonce de l'émission, on arrive au terme. Merci Jean-Paul Roland d'être venu nous parler de générique et des Eurokéennes. Meryl, la parole est à vous.
C'était Continent Musique, un magazine de Mathieu Conquet, équipe de réalisation Olivier Guérin avec Clément Daté et Dali Yaha. Préparation Meryl Meneghetti, rendez-vous sur le site de France Culture pour retrouver toutes les informations autour de l'émission, pour podcaster Continent Musique. Un grand merci à Mickaël Simon de la discothèque de Radio France et à Marc-Laurent Clotilde de l'INA.